Un détour par Versailles, une fois avec vous, Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Yves, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Je dis Versailles, mais en fait on va s'intéresser à la commune de Saint-Mars-la-Futaie, dans le département de la Mayenne. Une commune qui mérite le détour.
Eh oui, elle est de petite dimension, de peu d'habitants, à peine quelques centaines cette année, depuis longtemps d'ailleurs. Mais elle possède une église construite au XIIe siècle sur les ruines d'une chapelle où vivait un ermite, Bernard de Thiron. Alors, Bernard de Thiron est né en 1046 et après avoir été missionnaire itinérant, il s'installe à Saint-Mars-la-Futaie où il reçoit des fidèles toujours plus nombreux. Bernard de Thiron est mort en 1117 et canonisé, il a fallu du temps, en 1861.
Alors vous êtes là pour nous parler des plantes et des arbres. Alors pourquoi nous parler ce matin de ce saint et de cette église ?
Eh bien parce qu'il y a près de l'église un trésor inestimable. Lorsque l'église de Saint-Mars-sur-la-Futaie est construite, un texte datant des années 1150 précise que l'aubépine présente à côté de la nef pourrait avoir été plantée au 3e siècle, j'ai bien dit au 3e siècle. Cette aubépine vit toujours, elle est avec l'olivier de Roquebrune-Cap-Martin, l'arbre le plus vieux de France.
Cette aubépine depuis le 3e siècle, à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui ?
À une très belle personne fatiguée, âgée de 1700 ans. Je ne sais pas si vous imaginez un arbre vieux de 1700 ans. Alors la circonférence de son tronc un peu rabougri est de 2,40 m et la plus haute de ses branches culmine à 9 mètres. Cette aubépine, vous vous en doutez, est classée remarquable par l'association Arbre et, merveille des merveilles, elle fleurit tous les ans, tantôt blanc, tantôt rose.
Cette aubépine aurait ravi, c'est évident, Marcel Proust.
Ah, le grand écrivain aime l'aubépine et il en parle souvent dans ses ouvrages. Dans Un amour de Swann, il revient longuement sur l'un des très rares arbres à porter un nom féminin. J'en profite d'ailleurs pour lancer un petit appel. Si vous connaissez un arbre qui a un nom féminin autre que aubépine, eh bien je serais heureux de l'apprendre. Alors, petit extrait de ce texte signé Marcel Proust. Puis je revenais devant les aubépines comme devant ces chefs-d'œuvre dont on croit qu'on saura mieux les voir quand on a cessé un moment de les regarder. Mais j'avais beau me faire un écran de mes mains pour n'avoir qu'elles sous les yeux, le sentiment qu'elles éveillaient en moi restait obscur et vague, cherchant en vain à se dégager, à venir adhérer à leurs fleurs.
Alors, rappelez-nous, Alain, l'endroit exact où vit cette aubépine de 1700 ans.
Dans la Mayenne, à Saint-Mars-la-Futaie, à une petite vingtaine de kilomètres de Fougères et à peine une heure de route depuis Rennes, quand on arrive, on s'arrête, on la regarde, on ne dit rien, on la contemple. C'est un monument historique, c'est une merveille.
Vos conseils à présent, conseils et vos réponses aux questions des auditrices et auditeurs de France Inter. Fanny, par exemple, veut vous parler de ces pélargoniums. Ils ont les feuilles qui rougissent. Et pourquoi ?
Un coup de soleil. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour. Enfin, c'est une chanson que j'ai beaucoup aimée.
Et le géranium. Richard Cocciante.
Eh ben, affirmatif. Bonne réponse. Eh bien, le pélargonium, de temps en temps, est fragile. Il a été produit dans des conditions, j'allais dire, normales. Il n'a pas été mis à l'extérieur, à une période qui, elle, aurait dû lui être normale. Et la réaction est que les feuilles rougissent. Elles vont rougir, elles vont sécher, elles vont tomber. Mais le pélargonium ne va pas mourir pour autant. Il va reproduire de nouvelles feuilles et être superbe cette année. Le seul petit problème, bien évidemment, c'est qu'on perd un petit peu de temps dans la floraison, mais ce n'est pas très grave. J'en profiterai également pour revenir sur une recette qu'on me demande souvent, y compris dans les couloirs de la station, à savoir comment faire, comment détruire une bonne fois pour toutes ces satanées cochenilles qui envahissent nos plantes d'intérieur. Mmh. Alors j'avais dit à cette antenne une recette assez miraculeuse qui donne de bons résultats.
Avec du savon noir.
Eh bien, je la redonne à nouveau. Vous prenez une cuillère à café d'huile de cuisine normale, une cuillère à café d'alcool médical du style alcool à 90 et une cuillère à café de savon noir, bien vu Eric. Vous mélangez le tout dans un litre d'eau. Vous pulvérisez ensuite sur et sous le feuillage cette solution et vous renouvelez l'intervention une heure après. Vous répétez ce geste toutes les semaines pendant un mois et les cochenilles privées d'oxygène, parce que cette mixture a pour avantage de les isoler et de les asphyxier, est très efficace. Si vous avez fait ce que je viens de dire, promis juré, dans un mois, les cochenilles ne seront plus qu'un mauvais souvenir.
Vous n'aspergez pas la terre.
Non, la terre, non, ce n'est pas utile parce que le problème de la cochenille... Non, mais par contre, votre question n'est pas sotte, parce que ce que l'on sait peu, c'est que les cochenilles, souvent, se reproduisent dans la terre, c'est-à-dire qu'elles se cachent dans la terre avant de venir coloniser les plantes. Il est aussi bon, quand on a des cochenilles, de gratter un petit peu la terre. On peut avoir des surprises dans la terre.
Evelyne voudrait vous parler de son grenadier. J'ai planté, dit-elle, un grenadier depuis plusieurs années, un grenadier qui n'a jamais fleuri. Alain Baraton, peut-il me donner une explication ?
Peut-être même deux. La première, c'est que les plantes, parfois, mettent du temps avant de fleurir. La floraison, c'est la maturité sexuelle. Bah, certaines plantes sont plus rapides que d'autres. Et le grenadier peut mettre 5, 10, 15, voire 20 ans avant de se décider à avoir envie de se reproduire. Deuxième possibilité, bah, tout simplement que la plante est stérile. Il y a des plantes qui ne fleurissent pas. On a beau se plaindre, c'est comme ça, c'est la nature. Voilà l'une des deux explications possibles.
Allez, on va terminer avec un dernier conseil pour le week-end.
Les Petites Bêtes, ouvrage collectif dirigé par Alessandro Staedtli, c'est publié chez Salamandre.
Vous pouvez me redire le nom de l'écrivain.
J'ai quelques problèmes avec les langues étrangères, c'est terrible. Alessandro Staedtli, vous verrez ça, vous faites de toute façon Les Petites Bêtes, édition Salamandre, vous avez le nom exact. C'est un bouquin illustré de quantité de petits dessins. On parle des insectes, des coccinelles, c'est merveilleux.
Et on n'a pas eu le prix.
Comment? Je peux vous le donner si vous voulez, c'est 17 euros.
Merci beaucoup Alain Baraton.
Merci bien Alain Baraton et à demain.